Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Louis.
Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème.
Beata Umubyei Meresse a 15 ans quand elle réussit à fuir le Rwanda avec sa mère, en plein génocide opéré par les Hutus contre les Tutsis. 15 ans, c'est aussi le temps qu'il lui aura fallu pour raconter son histoire, dans un témoignage poignant, Le Convoi. 15 ans pour essayer de répondre à cette question. Où sont les images filmées par des journalistes de la BBC le jour de son départ dans ce fameux convoi humanitaire qui la sauve, comme des dizaines d'autres enfants, ce jour de juin 1994 ? Et puis 15 ans, c'est l'âge d'un de ses enfants aujourd'hui à qui elle n'a pas voulu transmettre son trauma, celui de l'odeur de la mort, soudaine et violente, celui d'un arrachement à son pays parce qu'elle est née Tutsi. On s'est retrouvés dans les bureaux de son éditeur Flammarion et tout commence avec l'enfance. Dans la ville de Butare, au Rwanda. Beata Umubyei Meresse, celle qui avait survécu. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
J'ai grandi à Butare. Je pense que, comme pour beaucoup d'enfants uniques, il y a eu des longues périodes de solitude et puis d'ennui. Mais oui, je vivais seule avec ma maman et que la plupart du temps, je ne partais pas en vacances. Alors, comme j'étais dans une école internationale, presque tous mes camarades de classe partaient dans le pays d'origine de leur famille. Et donc, souvent, je me trouvais seule. Enfin, pour moi, c'est vraiment... des après-midi sans fin, comme ça, que je meublais avec beaucoup de lecture.
Oui, c'est vrai que la lecture a une place très importante dans votre livre. Ce serait quoi la première lecture qui vous a marqué, la première histoire ?
Dans l'enfance, à l'école primaire, c'est Fantomette, cette petite fille, je pense qu'elle était française d'ailleurs. Et puis, à l'adolescence, ensuite, il y a eu des livres... Qui pourrait être, on se dit, tiens, elle a vraiment des références occidentales, mais effectivement, c'était à la littérature française que j'avais essentiellement accès, et pas du tout à la littérature africaine, finalement. Et je dirais, comme beaucoup d'adolescentes et d'adolescents de cette époque, j'ai été émue par Le Grand Maulne, et puis, oui, des textes de Boris Vian.
Et vous dites d'ailleurs, dans Le Convoi, au début du génocide, le vivre un petit peu à travers une hallucination romanesque. C'est une formule que vous avez. Vous êtes comme habité par les livres que vous avez lus. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement, cette formule ?
J'ai vraiment essayé d'être le plus honnête possible dans le livre. C'est-à-dire que, au début du génocide, quelque part, j'ai une sorte peut-être d'inconscience de me dire « mais on va pas être tué ». Et en même temps, je suis une adolescente qui est tellement dans les livres, tellement enfin, qui vit presque une vie parallèle à travers tous les romans que je lis, que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un grand moment d'histoire comme ça. Et que je filtre beaucoup de l'expérience de la vie à travers des livres que j'ai lus. Et notamment, je tiens au début du génocide un petit journal que j'ai retrouvé après. Parce qu'on l'avait glissé sous une grosse armoire, comme ça. Ma mère, à un moment donné, m'a dit « Tu arrêtes d'écrire, là. C'est trop dangereux. » Et on l'a glissé sous une grosse armoire en se disant « Celle-là, elle ne va pas être pillée, donc personne ne la retrouvera. » Donc, elle l'a retrouvée quand elle est retournée au Rwanda après. Et je parle de... Voilà, je cite Christine Arnotti, « J'ai 15 ans, je ne veux pas mourir. » Une sorte de référence comme ça, romanesque, et qui peut paraître très incongrue, mais peut-être que ça m'a aidée, finalement, aussi. Et étrangement... Plus tard, quand j'arrive en France, je ne pense pas du tout écrire cette histoire-là. J'ai complètement changé, en fait. C'est plus du tout du romanesque, en fait. C'est cette sorte d'élan. Au début, il est très vite retombé, en fait, quand on est passé si près de la mort. Il y a, dans mon premier recueil nouvelle, qui s'appelle Les Jours, J'ai mis en exergue un extrait d'un texte de Bell Hooks. C'est un livre d'essais qui s'appelle « Talking Back ». Et elle dit « avant les livres, avant l'écriture, on se rappelle the pain, la souffrance, la souffrance de la déshumanisation, la souffrance de la peur, la souffrance de la faim ». Et ça, c'est avant d'être un sujet pour des livres, c'est une expérience intime. Et je trouvais ça très juste, en fait, qu'à un moment donné, ce n'était plus du tout un sujet de livre, c'était une expérience intime. Et pour en refaire de nouveau un sujet de livre, comme ce que j'ai fait dans Le Convoi, il m'aura fallu pratiquement 30 ans. J'aime pas du tout l'expression « devoir de mémoire » parce qu'elle a été tellement galvaudée. Mais il fallait que je le fasse. C'était une nécessité.
Dans Le Convoi, vous revenez souvent sur le fait que vous étiez, vous êtes, et quand vous vous souvenez de vous enfant, vous étiez une petite fille, une jeune fille à la peau claire, ce qui vous différenciait du physique des gens du Rwanda. À quel moment ça aussi, vous en avez pris conscience? D'un point de vue identitaire dans votre construction intime?
Ah ben très tôt, je pense à l'école maternelle finalement. La première identité qu'on a, c'est celle d'être une petite fille. Et puis très vite, on se voit dans le regard des gens et les gens me renvoyaient que j'étais une blanche, que j'avais les cheveux lisses. Et ça, cette identité-là, elle est fondamentale dans ce que je suis devenue et elle est présente dans tous mes livres, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'être une métisse, avec la particularité que maman m'a élevée seule, donc je n'avais accès qu'à ma famille noire. Et qu'on me renvoyait constamment par cette couleur de peau à une absence. Donc ça a été aussi quelque chose qui m'a pesé, qui a été plutôt difficile et qui en 94 a été plutôt miraculeux. Enfin, en tout cas là, à ce moment-là, ça m'a servi à quelque chose.
C'est évidemment une scène fondatrice du convoi et de votre vie, la scène que vous êtes en train, que vous commencez peut-être à raconter. Cette scène, effectivement, où, donc en plein cœur du génocide, on est en 1994, vous êtes caché dans un hôtel avec votre maman et vous allez être découvert, notamment par un militaire Hutu. Et dans ce face-à-face, vous allez réussir, pour ne pas être tué, à inventer une histoire. Et c'est lié à votre couleur de peau.
En réalité, c'était un groupe de miliciens, donc ils étaient vraiment très nombreux et je ne les ai évidemment pas comptés. Et quand ils cassent la porte et qu'ils font intrusion dans la pièce où on est caché, on est recluse avec ma maman et une autre dame qu'on avait rencontrée pendant la fuite, la première exclamation, c'est de dire « Harumozungu Kazilia, une blanche ». Et puis ils nous sortent de cet endroit, on est sur le perron et évidemment on sait qu'ils sont sur le point de nous tuer. Ils sont pour la plupart armés de machettes, de piques, de brochettes, de coutelas, couverts de sang parce qu'ils viennent quelques minutes avant de tuer deux jeunes salariée de l'hôtel Tutsi qui était cachée dans une cave voisine. Et pendant qu'ils réclament à ma mère de leur donner la carte d'identité, parce que l'identité ethnique Tutsi ou toi était inscrite sur les cartes d'identité depuis l'époque coloniale. Et comme on ne pouvait pas forcément savoir si vous étiez Tutsi par votre nom, par votre physique, par... Enfin, les Hutus, les Tutsis ont la même couleur de peau, même langue, même religion, et même nom, enfin, même culture. Donc ça passait souvent, quand les gens ne vous connaissaient pas, comme là en l'occurrence ces gens-là ne nous connaissaient pas, par demander la carte d'identité. Et pendant qu'ils sont donc en train de réclamer la carte d'identité à ma mère, me vient cette idée que je n'avais pas prémédité de me faire passer pour française. Et j'identifie dans le groupe un homme, un jeune homme, qui est le seul, de mon souvenir, à ne pas être, armé ni avoir de sang sur lui, avec un bic dans la poche. Donc je me dis, lui, ça doit être quelqu'un qui est intellectuel, qui écrit. Et je lui parle, je lui demande s'il parle en français, et je lui dis, je suis française, mon père est français, d'ailleurs je dois lui dire, qu'est-ce que tu fais là, mais je devais le rejoindre en France, et c'est ça qui nous sauve. Alors, à la fois, c'est parce que je prétends ne pas parler notre langue, le Kinyarwanda, donc je demande à ma mère de traduire, et puis ensuite je m'adresse directement à lui en français, j'ai cette peau claire, évidemment, avant tout, et je parle... couramment, enfin, le français sans accent, et puis ce mensonge fonctionne ce jour-là. Ça aurait pu ne pas fonctionner aussi, mais c'est ça qui nous a sauvés. À chaque fois qu'on arrive à échapper à la mort, et c'est le cas de, je dirais, tous les rescapés du génocide contre les Tutsis au Rwanda, c'est un ensemble de... à la fois de stratégie, de chance, si on peut dire ça, et de hasard qui font qu'on s'en sort.
Je repense à ce qu'on disait sur la manière dont vous êtes perçue dans votre propre pays à travers votre couleur de peau. Il y a le mouvement inverse qui se produit lorsque vous arrivez en France, puisqu'on va revenir sur le fait que vous avez quitté le Rwanda à 15 ans avec votre mère. On va y revenir, c'est ce que vous racontez dans le convoi. Et une des choses que vous découvrez quand vous arrivez dans ce pays, c'est que vous êtes noire à travers le regard des autres. Comment ça s'est passé, ça ? Est-ce que vous avez un souvenir de ce moment où vous prenez conscience de ce nouveau regard posé sur vous ?
Je ne dirais pas que c'est un moment précis. D'abord, quand j'arrive, je suis dans une famille d'accueil dans le nord de la France, c'est des gens formidables, qui voient surtout en moi une Rwandaise, une rescapée, de ce qui ne se nomme pas encore forcément beaucoup génocide, mais de cette horreur qui vient de se produire et dont ils ont eu quand même quelques images à la télévision. Et petit à petit, oui, je vais avoir des remarques ou des choses qui sont pas malveillantes, hein, mais qui me font comprendre que je suis africaine, je suis... Alors, noire, c'est toujours compliqué, parce que dans la rue, par exemple, les gens me prennent pour une arabe, parce que j'ai les cheveux lisses, et que mes traits... Enfin, voilà, et finalement, parfois, on me prend pour une antillaise. Mais en tout cas, on me renvoie quand même à une identité afro. Je ne sais pas ce que c'est qu'être noire dans le regard des gens. Puisqu'il m'a fallu des années pour apprivoiser ce que ça voulait dire d'être blanche dans le regard, alors que moi, je ne me sentais pas blanche. Et ça sera, alors, plutôt après le bac, en découvrant la littérature afro-caribéenne, que je pourrai, petit à petit, apprivoiser cette fois-ci cette identité-là d'africaine et de noire, slash racisée, slash d'ailleurs. Au bout du compte, après avoir tenté tant bien que mal d'habiter ces identités-là, j'ai fait le choix d'être multi-identitaire et de ne pas accepter quand on est sommé de choisir.
Quand vous arrivez en France aussi, vous évoquez ça dans les premières pages du convoi, vous découvrez aussi ce que c'est que le silence. Parce qu'en fait, vous devez vous taire par rapport à ce que vous avez vécu. Comment vous vivez, adolescente, ce silence ? Comment il vous traverse ?
15 ans, c'est un âge assez, assez formidable, en fait, parce que... alors, il faut vraiment préciser que je ne suis pas traumatisée comme peuvent l'être d'autres survivantes et survivants. Je n'ai pas été machetée, je n'ai pas vu ma mère tuée devant moi comme plusieurs des enfants dont je parle dans le livre. J'ai échappé de peu à un viol, donc je n'ai pas été violée non plus. Et donc finalement, bien sûr qu'il y a ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, cette peur immense, mais il y a aussi tout de suite des possibilités de revivre, d'aller à l'école, d'être entourée, d'être dans une normalité que tout le monde propose, avec beaucoup de bienveillance autour de moi. Et c'est au fil du temps, en fait. C'est pas seulement dès ce moment-là. Il y a des gens, il y a quelques personnes qui veulent entendre. Ma famille d'accueil, d'ailleurs, qui m'envoie rapidement consulter une psychothérapeute. Et puis d'autres dont je sens, et même encore aujourd'hui, que c'est compliqué. Donc on ne me pose pas de questions. Et cette histoire est tellement énorme que je comprends vite que je ne vais pas l'imposer aux gens. Enfin, il y a une sorte de délicatesse comme ça chez les rescapés, de protéger presque les autres. J'ai une amie rescapée une fois qui m'avait raconté un peu de son parcours. Et je lui avais demandé si elle était allée voir un psy, en disant ça pourrait t'aider de poser ça quelque part. Et elle avait eu cette formule que j'avais trouvée à la fois triste et drôle. Elle m'avait dit « Ah mais non, t'imagines si je vais lui raconter tout ça, mais le pauvre, il deviendrait fou. » Et je pense qu'il y a des choses qui s'entendent beaucoup plus maintenant, parce qu'on est aussi dans l'après-MeToo, parce qu'il y a tout le MeToo inceste, et qu'il y a une parole qui se libère. Alors, c'est pas la même histoire, évidemment, mais en tout cas, de gens qui disent « Mais j'ai voulu parler, j'ai essayé de parler, et finalement, la deuxième violence que j'ai subie, c'est celle d'un silence imposé, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour dire les choses que j'avais subies. » Et je pense que c'est le même mécanisme, c'est une façon qu'a l'être humain, les sociétés, hein, quelles qu'elles soient, de quelque part se dire, ne pas parler de quelque chose, ça l'éloigne et ça le rend moins douloureux. Or, on sait que ce n'est pas le cas.
Je pense au début de votre texte, Le Convoi, où vous citez Audrey Lorde, vous dites, un moment découragé, je songe à ne plus jamais écrire sur cette histoire. Mais le silence, comme me l'a appris la lecture d'Audrey Lorde, ne m'apaiserait pas. Et vous la citez. Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus, ni bienvenus, mais si nous nous taisons, nous avons toujours peur. Il vaut donc mieux parler, sachant que nous n'étions pas censés survivre.
C'est un texte que j'avais d'abord vu dans des sortes de fanzines imprimées comme ça, par des mouvements féministes, et puis Audrey Lorde, c'est une poétesse qui m'a accompagnée ces dernières années. Je l'ai lue tardivement, au début des années 2000, je pense. J'étais allée à la librairie anarchiste de Montréal, 2005 ou 2006, je pense, et au fond d'un carton, il y avait un fond de la librairie, il y avait un carton comme ça, avec des livres qui étaient un peu soldés, et c'était là où il y avait Bell Hooks, Audrey Lorde, et j'étais repartie avec plein de livres qui m'ont beaucoup accompagnée ces dernières années, et je suis très, très contente qu'elles soient traduites, parce qu'elles peuvent aider beaucoup de gens.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, votre souvenir de jeune fille de 15 ans qui quitte le pays? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez que c'est un moment aussi important qui va déterminer votre vie? Est-ce que c'est une sensation que vous avez à ce moment-là, à 15 ans?
Moi, le sentiment que je garde, c'est celui à la fois d'une très grande peur et d'un très grand soulagement. Parce que les tueurs sont derrière nous, ils sont dans notre dos. Et quelques minutes avant qu'on traverse, il y a un militaire qui braque son arme sur ma mère, jusqu'au dernier moment, on peut, ou en tout cas ma mère peut être tuée devant mes yeux. Donc, je pense qu'il y a vraiment, traverser la frontière, c'est un soulagement, c'est un grand soulagement. Et on est un peu tétanisé aussi, quelque part, je pense, par la peur. Et je me souviens, ça je ne l'ai pas, je ne sais pas si je l'ai écrit dans le livre, mais on arrive côté burundais. Et là, il y a des gens qui sont venus avec des voitures de Bujumbura, de la capitale, parce que les camions qui ont emmené les enfants dans le convoi devaient rester au Rwanda. Et ensuite, il y avait tout un tas de voitures, de particuliers, d'ONG, qui viennent chercher les enfants, qui viennent. Nous, c'est une religieuse qui va nous emmener ensuite directement à Bujumbura, donc on ne reste pas avec les enfants une fois la frontière passée. Mais sur cette frontière-là, il y a des gens que l'on connaissait, qui n'étaient pas forcément des amis, mais qu'on connaissait dans Boutarès, c'était une petite ville. Et je pense notamment à une prof belge et à son amie qui est au Manet. et qui nous voient arriver et qui pleurent, mais qui sanglotent en nous serrant dans leurs bras parce qu'ils se rendent compte qu'on est encore en vie. En fait, il y a des gens qui sont à la frontière et qui, tous les jours, essayent de voir si on connaît des gens qui arrivent à s'en sortir. Et on est à la mi-juin, on est le 18 juin, donc finalement le génocide il est pratiquement terminé. Il y a très très peu de gens qui arrivent encore à ce moment-là à quitter le pays. Et en fait, c'est ce sentiment d'avoir une émotion des gens qui, eux, sont dans la vie, et nous, on est encore dans cette... on est tellement tétanisés, on ne respire pas depuis 2 mois et demi, finalement, que leur sentiment exprimé très fort comme ça, presque c'est comme si on ne sait pas quoi en faire. Parce que nous, on n'est plus en capacité de pleurer, on n'est plus en capacité de... Il faudra vraiment du temps ensuite. Et le soir même, j'arrive à Bujumbura et je tombe malade. Et j'ai de la fièvre, et j'ai une énorme angine. C'est comme si voilà, mon corps se disait, enfin, je peux tomber malade.
Et donc, du coup, vous décidez de la raconter, cette histoire. Vous décidez de vous en réemparer, notamment en peut-être prenant prétexte, ou en tout cas en vous jetant plutôt dans une enquête qui va être celle de ce convoi humanitaire qui vous a permis de quitter le Rwanda, terre d'hommes. Vous êtes face à des... En fait, vous cherchez des images. Quelles sont ces images que vous cherchez et qui vous permettent de commencer ce travail d'enquête ?
Quand on traverse la frontière le 18 juin, grâce donc à un convoi organisé par l'ONG suisse Terre des Hommes, un convoi dans lequel ma mère et moi n'aurions pas dû nous trouver puisque cette ONG avait réussi à négocier de façon assez incroyable d'ailleurs avec le gouvernement génocidaire de pouvoir sortir plusieurs centaines d'enfants, quel que soit ce qui était écrit, leur race, leur religion, etc., pour les emmener aux Zaïres, qui est l'ancien nom de la RDC aujourd'hui. Et on arrive à se retrouver dans ce convoi et on passe la frontière. Et quelques temps plus tard, des gens nous disent qu'ils nous ont vus au moment de ce passage de frontière entre le Rwanda et le Burundi. Et cette information, je la garde dans ma tête. Ben, les années passent, je fais mes études, je commence à travailler. Et c'est une information que j'avais donnée assez rapidement à mon mari quand je l'avais rencontré. Et puis, il me dit « mais tu ne voudrais pas retrouver ces images ?» Et c'est lui qui, au départ, écrit un courriel. Vraiment comme on jette une bouteille à la mer en trouvant un nom d'un journaliste qui était au Rwanda pendant le génocide de la BBC et en lui disant, ben voilà, ma femme était, elle cherche des images et en fait on n'y croit pas trop et finalement se met en branle un mouvement qui sera beaucoup plus rapide qu'on croyait et on arrive à retrouver par mail interposé l'équipe de reporters qui ont couvert effectivement ce convoi. Aujourd'hui, j'ai toujours pas retrouvé cette image-là spécifique. Mais ce début d'enquête va me mener vers tout un tas d'autres fils à tirer. Enfin, c'est comme un dédale où à chaque fois je cherche quelque chose que je ne trouve pas, mais dans cette quête, une autre question ou une autre quête. Survient, donc au départ c'est les images, ensuite je me dis, j'ai quand même quelques images sur lesquelles moi je ne figure pas, mais je vais les remettre aux enfants qui figurent sur ces photos, notamment en me disant, peut-être qu'ils sont dans la même recherche que moi, de retrouver des traces. Tout cela m'amène à un moment donné à me dire, il faut que j'écrive cette histoire, mais je retrouve aussi quand même des photos par un journaliste italien qui accompagnait Terre des Hommes, et sur une des photos, je parviens à nous voir, alors c'est flou, c'est celle qui est sur le bandeau du livre, mais ma mère et moi y sommes.
Pourquoi c'est une telle obsession pour vous de vous voir, de voir l'image qui vous représente, vous et votre mère, dans ce qu'on voit ? Parce que c'est l'obsession première, cette fameuse image manquante.
Mais j'ai envie de dire, si vous saviez qu'une photo existe d'un moment aussi crucial de votre vie, vous la chercheriez, bien sûr. C'est une évidence. Ce qui a plus été surprenant pour moi, c'est que parfois je me suis trouvée face à des gens qui pourtant étaient là ce jour-là et qui n'avaient pas l'air de saisir, et je parle pourtant de gens qui sont des journalistes, qui sont donc des professionnels de l'image et de l'histoire, qui ne semblaient pas saisir à quel point c'était crucial. Et pourquoi j'étais si impatiente le journaliste italien, je le raconte, qui mettra des mois et des mois à m'envoyer ses photos et je ne comprends pas pourquoi.
Il doit déménager, il doit ranger des choses, sa maison. Voilà, il est pris, lui, dans son propre flux. Il ne comprend pas pourquoi c'est aussi important pour vous.
C'est ça. C'est-à-dire que j'attendrai ses photos de septembre à mars, quoi, en rangeant mon frein. C'est aussi la prise de conscience, finalement, que beaucoup des archives de cette histoire, mais au-delà de ça, de l'histoire écrite des pays africains, se trouve en Occident. C'est pas que les œuvres d'art.
Une des raisons aussi que vous évoquez dans le convoi, qui vous pousse aussi à écrire ce texte ou à travailler cette histoire, c'est aussi le fait que vous avez un fils. Vous dites ne pas vouloir transmettre vos traumas et que du coup, vous avez aussi une responsabilité par rapport à lui, le fait d'être mère. Ça vous engage, ça vous responsabilise. Ça a été aussi un moment clé, un moment de bascule dans cette enquête et dans le processus comme ça de recherche et de réécriture de votre propre histoire.
Oui, vous avez raison, certainement. D'ailleurs, c'est en commençant à écrire le livre et en essayant de retracer les dates du début de l'enquête que je me suis souvenue que finalement, c'était au moment où j'étais enceinte de mon premier fils que j'ai accepté d'aller chercher les photos auprès de la BBC. Et finalement, je termine ce livre au moment où il a l'âge exact que j'avais en 94. Et il s'agit évidemment d'écrire pour sa génération et d'être dans cette démarche de transmission qui est indispensable, qui est une transmission que j'aime bien dire qu'il s'agit pour nous de dégoupiller les héritages. C'est-à-dire qu'il et elle connaissent l'histoire, connaissent les faits, mais qu'on ait suffisamment travaillé nous-mêmes sur nous, sur notre propre traumatisme, sur notre rapport au monde, pour ne pas leur transmettre justement le traumatisme et les choses qui les empêcheraient de vivre pleinement leur vie. Et ça passe par la parole, j'en suis convaincue.
Vous venez d'écouter Pépite, un podcast de Louis Média, présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai tourné et monté cet épisode, il a été réalisé par le studio La Fugitive, avec une musique de Michael Lio. À très bientôt dans Pépite.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ».
Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis « mais il se fout de moi ou quoi ?»
Je lui demande à quelle heure il rentre et là, il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire 3 heures plus tard.
Sur les coups de midi, je ne sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débité de 400 euros sur mon compte bancaire.
Je vois le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé, quoi. Et là, il me regarde et il me dit « monsieur, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien dans le droit des yeux, fuyez. »
Je fais une marche arrière.
Et à ce moment-là, une jeune fille arrive en courant.
On lui hurle par la fenêtre que nous sommes toutes ses meufs.
Donc je lui dis « à toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète. »
Lover, voleur, une série de 4 épisodes tournée par Lisanne Larbani après son enquête dans Libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder. Et à écouter à partir du 22 avril dans Passage, notre podcast d'Histoire vraie. À très vite.